pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
On peut trouver sur la question du suicide tout un tas de statistiques plus ou moins fiables, mais curieusement foisonnantes. Des annuaires mondiaux, des études de cas, des statistiques par genre, tranche d'âge, région, des classements, des records. Si l'on en croit l'Observatoire national du suicide, relayé par la presse quotidienne, en France par exemple, les modes de suicide les plus fréquents seraient la pendaison, 54%, puis les armes à feu, 15%, et ensuite seulement les prises de médicaments ou autres substances, 11%. Les sauts dans le vide, sachez-le, sont assez minoritaires, sauf chez les moins de 25 ans, en tout 7% des suicidés. Il y aurait aussi statistiquement des différences notables entre les hommes et les femmes. Le taux de décès par suicide est nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, qui ont davantage recours aux médicaments, 25%, alors que les hommes préfèrent la pendaison ou les armes à feu, 19% de virilité supplémentaire. Il n'existe en revanche pas beaucoup d'études précises ni de chiffres sur les tentatives de suicide ratées, les appels au secours un peu foireux, les chantages affectifs suivis de prises de médicaments, les menaces qui dérapent, qu'il faut d'ailleurs, disent les professionnels, considérer avec le plus grand sérieux. Encore moins dispose-t-on d'une bonne recension de tous les personnages de romans qui ont songé au suicide ou essayé de se donner la mort de manière grotesque, absurde, ridicule, sans qu'il ne s'en soit rien suivi de grave. Dans une phase de découragement, par exemple, Bouvard et Pécuchet s'avisent que n'importe quoi vaut mieux que cette existence, monotone, absurde et sans espoir. Ils décident d'en finir. Ils délibèrent sur les moyens, opte pour la pendaison, installe au grenier deux cordes et deux chaises. Pécuchet monte en premier, Bouvard le suit. Et je cite, « Il montait sur l'autre chaise, qu'en s'arrêtant tout à coup, « Mais nous n'avons pas fait notre testament. » Tiens, c'est juste. » Des sanglots gonflaient leur poitrine, ils se mirent à la lucarne pour respirer. Faute de testament, les deux hommes renoncent donc à leur mort. Ils ratèrent même leur suicide, conclut l'ermite de Croisset. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, petit suicide, deux histoires de suicide heureusement ratées et ce qui s'en est suivi, raconté par les faux suicidés et surtout par Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ce jour-là, on était, je me souviens parfaitement, au mois de juillet 2006. C'était un jeudi. Il faisait très chaud à ce moment-là. Je me souviens de cette petite canicule de 2006. J'habitais dans un nouvel appartement. J'avais très exactement 19 ans et des poussières, 19 ans et demi, pas encore 20 ans. Et j'étais en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles. Une période un peu compliquée pour moi parce que je venais de louper le concours d'une part et ensuite parce que je m'assumais pas forcément m'assumer dans toute la dimension globale du terme. Je me cherchais à tous les niveaux et j'étais un peu perdu, que ce soit personnellement ou professionnellement, en tout cas en termes d'études. Mes parents m'avait un peu menacé de me couper les vivres pour la simple et bonne raison que je dépensais beaucoup d'argent. Et c'était un peu l'élément déclencheur. Je me souviens que je devais avoir une facture ou une dette à payer ou un découvert. Et j'avais appelé mes parents pour leur demander de m'envoyer des sous. Et ils m'avaient envoyé bouler en me disant que ça suffisait, que ça faisait des mois que je faisais que des conneries, que je dépensais énormément d'argent. Et voilà. Et donc maintenant, il fallait que je me débrouille et que je gère avec ce que j'avais. Je me suis senti perdu, lâché. J'avais cette échéance, enfin ce problème financier, et ne travaillant pas, ne sachant pas comment travailler ou ni comment gagner de l'argent à ce moment-là, j'ai voulu attirer leur attention et c'est pour ça que j'ai fait cette petite bêtise. Je n'étais pas encore français, j'étais un petit étudiant étranger. On est en 2006, je ne sais plus qui est ministre de l'Intérieur, si je le sais très bien, celui qui est devenu par la suite président de la République. Et du coup, disons qu'en termes de résolution de titre de séjour, c'était un peu compliqué. Il fallait demander des autorisations particulières pour pouvoir faire un job étudiant, que ce soit serveur dans un café ou vendeur, etc. Donc la solution, elle était pas, enfin, je l'avais pas sous les yeux, quoi. Et c'est pour ça que je me sentais aussi un peu perdu, disons. Après, le milieu dans lequel j'ai grandi et l'univers d'où je viens m'a permis d'avoir énormément de facilité, peut-être ce côté gosse de riche qui a tout de suite, et peut-être que oui, mon tempérament un peu capricieux de l'époque m'a amené à vouloir avoir tout de suite. Mes parents, la petite erreur qu'ils ont faite, si je peux me permettre, c'est qu'ils ont toujours répondu à mes caprices. C'est-à-dire que je pleurais un coup, je chouinais un coup, et puis j'avais ce que je voulais. Et là, je pensais encore l'avoir, tout naturellement. Ça ne s'est pas fait. Le monde s'est écroulé autour de moi. J'avais l'impression que c'était la fin du monde et que... voilà, et c'est pour ça que j'ai pensé à attirer leur attention de cette façon. Je suis allé acheter une boîte d'efferalgans en effervescent, je me souviens parfaitement. J'en ai mis 3 ou 4 dans un verre d'eau, dans un très grand verre d'eau, et j'en ai bu 4 ou 5 gorgées. Et je suis passé à l'étape supérieure, qui était d'alerter mes deux meilleurs amis, de leur envoyer un message un peu dramatique. Et,
qui disait quoi, tu te souviens ?
La vie m'est désagréable, j'y mets faim, prenez soin de vous l'une et l'autre, voilà, je vous aime. Pour moi, elles allaient appeler mes parents, les alerter. Et c'était ça pour moi. J'ai fait aussi un truc un peu ridicule, je me souviens, pour être vraiment dans le mélo, bien dégoulinant, etc. Je me souviens avoir pris une feuille de papier et avoir écrit dessus « Je suis pour le don d'organes, le don de mes organes ». Donc je ne sais pas du tout ce qui m'est passé par la tête à cet instant-là, mais disons que la mise en scène, je la voulais intégrale, voilà. Alors, j'alerte mes deux amis, j'envoie un texto, je coupe mon téléphone, enfin, je réponds pas à leurs appels, elles me harcèlent, et là, elles me laissent un message disant « Si tu ne réponds pas, on débarque avec les pompiers ». Bon. Pendant ce temps-là, je suis allongé dans mon lit, de façon complètement dramatique, étendu, le drap sur moi, pensant que mon heure était venue. Enfin, à ce moment-là, je ne l'ai jamais pensé, mais en tout cas, simulant le dernier soupir. Et à ce moment-là, donc, j'écoute ce message vocal et je me dis « Zut, quoi, on y est, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour moi, il est difficile de faire marche arrière à ce moment-là. Je me décrédibilise, c'est un peu compliqué. Je me dis « Va au bout du truc ». Elle continue de rappeler, elle rappelle encore et encore, et là, j'entends les pompiers arriver. Je me dis « Zut, flûte, ils vont défoncer la porte ». Ils vont défoncer la porte, ça signifie une facture supplémentaire, un autre truc. Je vais avoir des difficultés encore et encore et encore, et encore plus de mal à me sortir de cette situation. J'attends, les pompiers montent, ils frappent à la porte plusieurs fois avant de la défoncer, avant de commencer à la défoncer. Je me traîne jusque la porte et je l'ouvre. Je continue dans ma simulation, je donne l'impression d'être complètement mourant et évanoui et inconscient. J'ouvre la porte et enfin, je suis allongé sur le sol. Les pompiers me transportent sur une chaise et l'escalier hyper exigu ne leur permet pas de me descendre sur un brancard, mais ils me descendent assis. Ils appuient plusieurs fois sur ma gorge pour essayer de me maintenir réveillé, pour pas que je perde conscience, puisque je simulais cette perte de conscience. Et j'entends, c'est vrai que c'est le moment un peu triste et qui me marque, et où je me rends compte que j'ai quand même un peu abusé, exagéré. C'est un pompier qui dit à son collègue « C'est quand même triste, qu'est-ce que c'est triste à cet âge-là » Et là, je réalise que j'ai dépassé les limites. Mais par peur des représailles des pompiers, des représailles de mes amis, des représailles de ma famille, je pousse le truc jusqu'au bout. Donc, on me transporte à l'hôpital, on fait une batterie d'examen, on se rend compte que j'ai rien du tout.
Mais tu fais comment pour simuler ?
Oh bah, tu fermes les yeux, tout simplement. Tu fermes les yeux, tu fais semblant de dormir, d'être... Enfin, c'est un peu compliqué parce que tu te dis aussi, est-ce que je suis crédible, est-ce que je le suis pas, est-ce qu'ils vont se rendre compte de ma comédie, de mon sketch. Et en même temps, tu commences à culpabiliser à culpabiliser d'avoir occupé le temps, occupé une ambulance, occupé un lit, occupé l'activité de plein de gens, surtout de secours qui peuvent être beaucoup plus utiles à d'autres personnes. Donc là, tu te rends quand même compte que t'es allé trop loin. Voilà, je ferme toujours les yeux, je reste certainement une petite heure seule et mes amis ont dû attendre dehors. Et les médecins sont, je pense, dans l'obligation de me garder, vérifier que tout va bien. Il est 18h, je continue de simuler mais un peu moins. Mes amis me rejoignent, je suis un peu flagada mais tout va bien, je leur parle. Elle me passe ma mère au téléphone, mes parents. Ma mère qui me dit « mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» que c'était pas du tout dans mon tempérament d'être suicidaire et que si j'avais décidé de faire ça, c'était pour attirer leur attention et qu'ils savaient très bien quelle était mon intention première plutôt. Mes deux amis, sur le coup, on n'a pas vraiment échangé grand-chose, on a juste un peu plaisanté, t'as besoin d'un truc, on t'a porté fringues, est-ce que t'as besoin de quelque chose, tout va bien. Je pense qu'elles étaient un peu partagées, elles, entre... est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Donc elles ont joué le jeu jusqu'au bout. Enfin le jeu du soutien en tout cas. Elles m'ont soutenu jusqu'au bout. Et puis mes amis restent un peu avec moi. Et puis on les invite à sortir parce qu'il est tard, il faut qu'elles partent. Puis je me retrouve seul. J'ai quand même passé la nuit à l'hôpital. Le lendemain, on m'a laissé quitter l'hôpital. Tout allait bien, rien à signaler. Sauf qu'avant, il fallait que je passe voir un psychiatre. Et là, je me suis rendu compte que c'était le truc de trop. C'était un peu éprouvant pour moi, j'en pouvais plus, j'avais qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi. Et là, je vais voir le psy. Et avant même qu'il commence sa litanie, je lui dis « Écoutez, voilà, j'ai voulu attirer l'attention de mes parents, je l'ai fait exprès. Voilà. » Je racontais toute l'histoire. Et il m'a fixé pendant une bonne et longue minute avant de me dire que ça ne se reproduise plus jamais. Je ne veux plus vous voir dans cet hôpital. Vous n'avez plus intérêt à refaire ce genre de conneries. Voilà. Et il m'a signé l'autorisation de sortie. J'ai quitté l'hôpital. Le lendemain, vers 15h quand même. Donc cette histoire a duré 24 heures.
Tes copines t'ont pas engueulé ?
Si, elles m'ont fait la morale, évidemment, bien après. Mais alors, ironie du sort, et pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que mes parents m'ont quand même fait le virement. Voilà, dans les jours qui ont suivi. Du coup, mon problème ayant été réglé aussi, je pense que ça m'a permis de vite oublier cet incident. Ça m'a bien servi de leçon. Ça, surtout le fait de culpabiliser après, vraiment d'avoir impliqué trop de gens là-dedans, non, ça m'a servi de leçon.
France Culture, les pieds sur terre.
J'avais 6 ans, donc ça correspond à la période où ma mère était enceinte de mon petit frère. Et j'ai toujours été une enfant très timide, qui avait très peur en fait des autres. Même demander une paille à la serveuse pour mettre dans ma grenadine, c'était un enfer, quoi. Donc j'ai été une enfant très timide qui faisait des maladies un peu bizarres, genre des psoriasis de l'ongle, des eczémas, des rhumes de la hanche. Donc j'ai toujours été cataloguée comme étant la fille de la famille un petit peu étrange, quoi. Alors on était partis dans un espèce d'hôtel assez chic, enfin dans mon souvenir, hein, c'était chic. Il y avait une piscine, un grand restaurant en Autriche, d'un peu de sénatorium comme dans la montagne magique, en bois, perdu au milieu de la montagne, avec des grands espaces. Et donc on était là-bas pour passer les vacances d'hiver. Ma mère était donc enceinte de mon frère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis partie pour aller jouer avec une jeune fille aussi de l'hôtel. Et on est parti pour jouer. Il s'avère que cet enfant, c'était une des filles du propriétaire de l'hôtel. Et que du coup, elle avait sa chambre avec tous ses jouets dedans. Donc je suis partie pour jouer à ça. Sauf qu'en fait, j'ai aucune notion du temps. J'ai 6 ans. Je me retrouve à jouer des heures, quoi. Et mon père, me voyant plus, a commencé à paniquer. Donc il m'a cherché partout. Et puis moi, d'un coup, je suis revenue. Parce que je me souviens, enfant, avoir eu ce moment où m'être dit « Ah, ça fait longtemps que je suis partie ». Et là, je suis retournée dans le hall de l'hôtel. Et là, je me suis fait mais taper dessus. Enfin, taper dessus de peur. Je pense que mon père a eu tellement peur. Donc, il m'a pris. Il m'a emmenée dans la chambre. Je me souviendrai toujours. Et il m'a foutu une fessée. Mais comme je m'en souviendrai toute ma vie. Et moi, ça m'a tellement choquée que je suis allée dans la salle de bain. Et là, dans la salle de bain, je me suis dit, je vais me suicider au savon, quoi. Je crois que j'ai pris une chaise, il y avait des petites chaises, tu vois, ou un truc là où on peut s'asseoir dessus et tout dans une salle de bain. J'ai pris ça, et je me suis mise devant le lavabo, et là, je me suis regardée pleurer. Et je me suis dit, bon. Eh ben, parce que je devais me laver, c'était ça le truc en fait. Mon père voulait que je prenne ma douche, c'était la douche, avant de redescendre pour le dîner. Et en fait, au lieu de me nettoyer avec, j'ai pris le savon puis je l'ai mangé, quoi.
Tu l'as croqué, t'en as avalé ?
Ouais, je l'ai croqué, c'était dégueulasse. Mais je me souviens essayer de croquer ce truc et puis de faire des petits copeaux et puis de d'ingurgiter ça et cette sensation d'avoir ce truc là dans la bouche, c'était très bizarre, quoi. Et là, mon père est venu et a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je hurlais, quoi, dans mon souvenir. Je voulais pas qu'il m'enlève le savon. Je vais me suicider au savon en hurlant dans le truc et tout ça. Lui, il a éclaté de rire, évidemment. Il a pris le savon, puis il m'a menacé de mettre une gifle, quoi. Parce qu'il me dit, mais t'es complètement folle. Enfin. Et là, je me suis sentie hyper humiliée une deuxième fois. Enfin, ça a été terrible pour moi, ce souvenir-là. Je vois encore la glace, la lumière blafarde, enfin. De tout qu'on peut avoir dans les salles de bain, dans les hôtels. Et puis cette ambiance très particulière d'Autriche, d'être perdu. Il n'y avait pas d'échappatoire. La seule échappatoire, en fait, c'était de se foutre en l'air à 6 ans. Et c'était complètement. C'était même pas du chantage, c'est ça qui était troublant. Je pense que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit tout est fini, quoi. Et je me souviens que du coup, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, et que dans le trouble, j'ai oublié de mettre ma petite culotte. Puis ma mère faisait, je me souviens très bien ce décalage, il y avait des ateliers dans cet hôtel, et elle faisait des petits bouquets en. Il y avait un atelier pour faire des bouquets en fleurs séchées. Et mon père m'a amenée du coup en bas chez ma mère au truc de fleurs là, et j'avais pas de petite culotte. Et troisième honte, du coup, troisième truc, c'est une espèce d'accumulation de petites morts, quoi. Et du coup, j'étais hyper perturbée par ça. Plus du tout par l'histoire du savon, plus du tout par le fait que j'étais partie, mais voilà. Mon père a raconté à ma mère que j'ai voulu me suicider au savon, et du coup, ça a fait la blague, tout le monde a ri. Je vois encore toutes ces femmes qui rient, et moi qui suis là comme une enfant perdue. En Autriche. Et après, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, à chaque fois qu'il y avait des invités et tout, c'était la blague de Clémence qui a voulu suicider au savon à l'hôtel. Donc, ça faisait rire tous les invités à table pendant les dîners de mes parents. Et moi, j'ai toujours eu honte d'avoir fait ça. En vrai, j'avais besoin d'être consolée, mais c'était pas le fort de ma famille de consoler les enfants. Et en même temps, je me disais que si ma mère était enceinte de mon frère, c'était pour prendre ma place. Donc, je devais mourir, quoi. Il fallait que je la laisse, ma place.
Et, tu te le disais vraiment ?
Ouais. Il fallait que je laisse ma place, quoi. C'était pas. Après, il y a eu toutes les idées de fugue, quoi, de partir, de pas revenir. Et la conscience de la mort, je l'ai eue assez tôt, parce que je crois que mes parents, des gens un peu fous, mais qui l'invoquaient beaucoup, enfant. Enfin, c'était un truc qui était... C'était beaucoup de chantage et tout. J'ai grandi vraiment avec... voilà, ça, et je pense que j'en ai eu conscience très tôt, quoi. Je savais qu'être mort, c'était... oui, disparaître, quoi. Ne plus exister. J'en avais pas peur, en fait. C'était pas quelque chose qui me faisait peur. Je me disais que c'était plutôt quelque chose qui t'amenait vers un espèce de paradis. Donc on rabâche quand même aux enfants ce truc-là de la mort, c'est le paradis ou le purgatoire. On dit aux enfants que la mort, c'est pas grave, en fait. Enfin, voilà. Et j'y ai cru, vraiment. Enfin, sur moi, ça a vraiment marché. Donc, cette conscience-là, en fait, de la mort, elle s'est matérialisée là par un savon. Mais j'avais aussi un espèce de truc très bizarre que j'arrive plus à faire aujourd'hui, qui est une espèce de petite mort, c'est-à-dire que j'étais capable de m'annuler complètement. J'ai commencé, je pense, à le faire très tôt. Hein. Je devais avoir, 7 ans. Et puis, j'ai réussi à le faire jusqu'à mes 15 ans, je pense. C'est-à-dire que j'étais allongée sur mon lit, dans ma chambre. Ma chambre, il y avait du papier peint avec des petits motifs dessus, dans mon souvenir. Des cœurs, de toutes les couleurs. Et donc, j'étais allongée dans mon lit, sur le dos. Je fermais les yeux. Et en général, c'était ou dans l'après-midi ou avant de m'endormir le soir. Et là, j'arrivais à complètement m'abandonner. C'est-à-dire que ça, c'était par palier. Donc, d'abord, j'oubliais mon prénom. Ensuite, j'oubliais mon nom de famille. Ensuite, j'oubliais ma famille en tant que telle. Ensuite, j'oubliais ma ville. Ensuite, j'oubliais ma langue. Enfin, tout. J'oubliais tout. Et au fur et à mesure, je descendais, en fait. Je descendais de plus en plus jusqu'à ne plus du tout savoir dans ma tête qui j'étais, quelle langue je parlais, quel âge j'avais. Voilà. C'était une extrême concentration. Je crois que c'est vraiment quelque chose où fermer les yeux et je matérialisais dans ma pensée un espèce de gouffre, en fait, dans lequel je plongeais. Je me voyais descendre comme un petit personnage, comme dans Alice au Pays des Merveilles, en fait, qui tombe dans le terrier, là, avec tous ces objets qu'elle laisse, en fait, et puis finalement, elle tombe dans la mer, quoi. Et en fait, je me souviens, une fois, j'ai eu très peur parce que je savais plus comment remonter, quoi. Mais donc c'était à la fois assez agréable et en même temps assez troublant. Et en fait, je descendais, et ça me permettait d'être rassurée, en fait. Ça me permettait de me dire que je pouvais tout réinventer, en fait. Et donc après, j'ai dû raconter tout ça, cet événement-là du gouffre dans lequel on tombe. Et on m'a dit que c'était un espèce de coma volontaire, quoi. Faire mourir la personne que j'étais pour redevenir une autre personne. C'était vraiment ça, en fait, le but du jeu. C'est un jeu, hein, en fait. Et bizarrement, tout ça est parti... À mes 15 ans, avec toutes ces maladies bizarres que j'ai pu avoir, j'ai plus jamais eu de trucs bizarres, quoi. Après coup, oui, j'ai pu vouloir mettre fin à mes jours parce que j'ai eu un chagrin d'amour ou... Mon premier grand chagrin d'amour, j'ai arrêté de manger. Et là, mon père a eu peur et m'a dit « Mais ton arrière-grand-mère est morte par amour. » En fait, elle s'est suicidée... À la suite d'un chagrin d'amour, en fait, elle n'a pas supporté que son mari parte, qui était poète alsacien d'ailleurs. Il est parti, en fait, avec une autre femme, et elle ne l'a pas supporté, donc elle s'est laissée mourir. Et elle est morte d'amour, en fait, et ça a toujours été ça, et mon père a eu toujours très peur de ça. vu que j'étais comme un petit oiseau qui finalement était de plus en plus voilà, chétif et tout, mes parents l'ont remarqué, ont bien vu que ça n'allait pas du tout. Et du coup, en fait, mes parents, après, m'ont emmené chez le médecin pour voir ce qui n'allait pas et pour pouvoir me soulager. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, le médecin a décidé de me mettre sous antidépresseur. À l'époque, mais j'étais très jeune. Mais bon, ça s'est fini comme ça. Et puis, je pense qu'il y a autre chose, c'est au-delà des médicaments, c'est peut-être le théâtre et le fait que je me suis lancée pour la première fois dans une mise en scène d'une pièce de théâtre qui était un petit cabaret qui payait pas de mine, mais qui est la première pièce de théâtre que j'ai faite. Et c'était un cabaret qui s'appelle Christ, sortie de secours. Le titre n'a aucun rapport avec ce qui était montré. C'était une succession de numéros, mais bon, il y avait cette idée de sortie de secours que je rapprochais pas forcément du spectacle en lui-même ou de ce chagrin d'amour. C'était comme ça, mais bon, le hasard a fait que ça s'est appelé sortie de secours. Encore, c'était Les Pieds sur Terre, Petit Suicide, un reportage de Delphine Dilly réalisé par Anne Kobilac. Merci à Gabriel, à Sacha, à Clémence, à Zineb. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Iris Bernadac, c'est notre stagiaire. Partage, commentaires, réactions, Facebook et Twitter, vous connaissez les adresses. On vous y attend nombreux. Yes.
sa tête.